Et on commence ce journal avec une première mondiale, la première naissance par fécondation in vitro d'un enfant issu d'ovules non matures.
Il s'agit de l'enfant d'une jeune Française de 34 ans qui a accouché en juillet dernier. Il y a 5 ans, elle était atteinte d'un cancer du sein qui allait la rendre stérile. Le plus souvent, pour la préservation de la fertilité ou pour les fécondations in vitro, on stimule les ovaires des patientes via des injections hormonales pour récupérer des ovocytes mûrs qui peuvent ensuite être congelés et plus tard fertilisés. C'est un traitement lourd et dans de nombreux cas, il est contre-indiqué, notamment en cancérologie, et c'était le cas de cette Française. Les médecins ont donc décidé de prélever ces ovocytes à un stade très précoce. Puis après le prélèvement, ils ont fait une maturation in vitro, une MIV, qui consiste à faire mûrir ces ovules en laboratoire pour ensuite les vitrifier. Selon l'étude qui vient de paraître, le bébé est en bonne santé et deux autres patientes sont enceintes avec cette méthode. C'est un pas de plus vers des FIV plus faciles et moins invasives. Michael Greenberg est responsable de la médecine reproductive et de la préservation de la fertilité au CHU Antoine Béclair à Clamart. Il est le principal auteur de cette étude.
Donc là, on prélève les ovules qui sont cette fois immatures. Donc immatures, ça veut dire qu'ils n'ont pas la capacité à pouvoir donner un embryon si on était amené à les féconder. Donc il faut les faire passer au stade de mature pour pouvoir les congeler et ultérieurement les féconder quand on en aura besoin. Donc en fait, on a récupéré des ovocytes qui étaient donc immatures, qu'on a confiés au laboratoire et qui ont été mis dans des milieux de culture assez particuliers, spécifiques, qui permettent d'avoir cette maturation finale des ovocytes, qui permet à la fois la maturation du noyau de l'ovule, qui contient les chromosomes, et du cytoplasme de l'ovule, qui contient tout le matériel et toutes les protéines qui vont permettre le développement final de l'ovocyte, qui lui-même sera apte après à amener toutes les ressources pour le développement embryonnaire précoce. Le paradoxe de cette technique, c'est que cette maturité, elle peut être atteinte en 24-48 heures, alors que ce qui se passe physiologiquement et du reste également après stimulation ovarienne, il faut 10 à 12 jours pour atteindre la maturité. Donc en fait, on a l'impression qu'il y a des étapes qui sont chantées quand même dans tout ce process. La femme a accouché il y a 6 mois et du coup, ça a réactivé quand même beaucoup l'intérêt des labos par rapport au développement de milieux spécifiques pour essayer d'améliorer. Parce que j'ai dit, ok, on a une technique, elle marche un peu, mais on peut faire beaucoup mieux. Donc il faut qu'on travaille là-dessus. Parce que c'est vrai qu'à terme, si on peut arriver à faire au moins aussi bien que la FIV conventionnelle après stimulation ovarienne, bien sûr que ça conviendra à tout le monde de ne pas administrer d'hormones. C'est sûr que c'est, en termes de degré invasif, bien moindre que ce qu'on peut avoir actuellement.
Voilà, vous pouvez retrouver bien sûr l'étude publiée dans Annals of Oncology, le lien vers cette étude sur notre fil Twitter @laméthodefc, ainsi que sur la page de la méthode scientifique sur franceculture.fr. Et on passe au bref. Dans le journal Le Monde, une tribune signée par 1000 scientifiques appelle à la désobéissance civile pour lutter contre le dérèglement climatique.
Et dans ce texte, les signataires dénoncent des décennies d'inaction gouvernementale et une hypocrisie politique. L'idée d'une croissance infinie sur une planète aux ressources finies est tout simplement une impasse, je cite. Ils rappellent que la concentration de CO2 dans l'atmosphère n'a jamais été aussi élevée depuis plusieurs millions d'années. Ils interpellent donc les dirigeants politiques, les citoyens, les comités de quartier, les associations à faire sauter les verrous pour prendre toutes les mesures possibles afin de réduire l'empreinte carbone de la France en des actions fortes, radicales et rapides.
Selon une étude du Center for Research on Energy and Clean Air, le coronavirus Covid-19 a aussi des effets sur l'environnement.
Et les quarantaines et le ralentissement des activités économiques ont réduit d'un quart les émissions de CO2 de la Chine. On observe une réduction de 15 à 40% de la production dans les principaux secteurs industriels. La demande de charbon et de pétrole ont baissé et la production d'électricité quotidienne dans les centrales à charbon est à son plus bas. Mais selon ce rapport, ce n'est que temporaire. Il faut même s'attendre à une augmentation encore plus forte de ces émissions. Pour compenser leurs pertes, les usines vont maximiser leur production, ce qui devrait entraîner une augmentation globale des émissions de CO2.
Et selon une étude parue cette fois dans Royal Society Open Science, la malbouffe joue sur le contrôle de l'appétit de notre cerveau.
Et pendant une semaine, des chercheurs australiens ont fait suivre à de jeunes personnes en bonne santé un régime alimentaire particulièrement riche en graisse et en sucre. L'équipe a découvert que non seulement ces régimes alimentaires altèrent la mémoire, mais qu'ils affectent aussi notre capacité à contrôler notre appétit. On le savait, chez les souris, l'hippocampe du cerveau est très sensible à la malbouffe. Et c'est ce qu'on observe ici aussi chez l'humain. Manger gras et sucré perturbe le fonctionnement de cette région cérébrale. Selon ce papier, même sur de courtes durées, ces régimes alimentaires provoquent des troubles neurocognitifs.
Merci Natacha, on vous retrouve demain pour le journal des sciences de la semaine.